Radio Cité Genève, Viviane De Witt,
la bouteille à moitié pleine.
Bonjour, vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2 dans la bouteille à moitié pleine. Aujourd'hui, je reçois Valérie Wertheimer, fondatrice et présidente d'Action Innocence.
Bonjour
Valérie.
Bonjour Viviane.
Heureuse de te recevoir.
Moi également, heureuse d'être là.
Pour parler d'Action Innocence, dont nous allons, déployer tout le temps de cette émission les différents aspects, parce que c'est quelque chose d'essentiel. Mais avant qu'on en arrive à cette création que tu as faite de toutes pièces en 99, je crois.
Absolument.
On va, s'il te veut, venir en arrière et je vais te demander quelle petite fille tu étais.
Eh bien, je suis, j'étais la petite fille que tu peux voir en tant que femme, c'est-à-dire quelqu'un qui aimait dire les choses cash, qui était un petit peu turbulente, qui n'avait pas sa langue dans sa poche. Une petite fille très heureuse parce que entourée d'amour, avec deux parents merveilleux. Après, une petite fille qui a grandi et qui a fait ses études chez les Oblates de l'Assomption, donc des religieuses extrêmement rigoriste.
Donc tu étais en France, hein, tu es d'origine
française. En France,
française.
Absolument. Mais ces religieuses rigoristes qui m'ont un peu perturbée ma jeunesse m'ont permis d'être aussi ce que je suis, c'est-à-dire une femme avec des principes, une femme avec une parole donnée. Enfin, une femme pas trop mal, en définitive.
Voilà. Oui, je le crois. Une belle personne, voilà. Alors, si tu veux bien, on va venir à ta vie à Genève. Tu es arrivée à Genève en quelle année?
Alors, l'année, je ne sais pas, parce que je suis très mauvaise avec les années, mais il y a 22 ans.
Il y a 22 ans.
Oui, donc c'est très loin. C'est à la fois très loin et très près.
Oui, c'est assez près. En fait, tu as bien occupé ces années, donc ça paraît très près, très loin, parce que tu n'as pas eu le temps de t'ennuyer. Et
du
on va
tout.
Voir pourquoi. Donc, je reviens à ton arrivée à Genève. Tu n'étais pas une femme qui avait une profession, ni même un but dans la vie précis, autre qu'élever les enfants.
Ah voilà, j'étais une mère de famille comblée, et fière de l'être, comblée et mère de famille. Et je n'avais pas du tout la vocation, dans un premier temps, à m'engager, ce pourquoi j'ai été faite à un moment donné. Et voilà.
Alors donc, tu commences par élever les enfants et puis les enfants grandissent et on sait très bien que lorsque les enfants grandissent, ils ont moins besoin de leur mère, ils sont à l'école toute la journée déjà pour commencer. Et à ce moment-là, eh bien, tu es seulement la femme de. Donc la femme de qui? La femme d'un des deux frères Wertheimer, de Gérard en particulier, dont on sait que c'est l'un des deux propriétaires de Chanel. Chanel qui est l'une des grandes réussites mondiales. Alors évidemment, tu n'aurais pu être que ça, c'est-à-dire déjà beaucoup. Mais tu as choisi un autre destin.
Alors, je n'ai pas choisi parce que je pense que dans la vie, il n'y a pas de hasard ou de coïncidence. Il y a des rendez-vous de vie. Effectivement, j'aurais pu rester comme j'étais. J'étais pas si mal et j'aurais pu m'occuper. Mais j'étais confrontée à une chose qui m'a paru épouvantable lorsque j'ai voyagé en Thaïlande, ce qui m'a amenée à fonder Action Innocence. Mais ce que je veux dire, c'est que même si je n'avais pas été une maman, je l'aurais fait aussi de la même façon.
Alors, il faut que tu nous redises ça. Donc, tu as fait un voyage en Thaïlande avec des amis, avec ton mari.
Pas spécialement avec mon mari. J'ai été retrouver une amie et j'ai eu un... C'était un voyage pour moi initiatique puisque j'y allais pour passer des vacances.
C'était en quelle année?
Alors, c'était en 97.
D'accord.
Et en 97, j'ai été confrontée au tourisme sexuel. Donc, des enfants sollicités, des enfants entre 7 et 12, 13 ans.
Mais alors, comment est-ce que tu étais avec des femmes? Tu étais
alors, non, j'attendais dans un lobby d'hôtel, mon amie, qui était une grande golfeuse et que je retrouvais tous les jours à 5 heures après son golf. Et j'ai vu un balai incessant pendant 2-3 jours de gamins qui partaient souvent avec des messieurs, pas forcément jeunes. J'ai commencé à poser des questions. Et on m'a dit, ce sont des enfants qui vont passer des vacances à des fins sexuelles
un peu
particulières. Et j'ai demandé, mais par quel biais ces enfants étaient là? Comment ça se faisait? Et on m'a dit, par Internet.
Alors, tu veux dire qu'Internet était la sorte de plateforme
était un vecteur, c'est-à-dire qu'il y avait des agences de voyage qu'on pouvait solliciter sur Internet et qui vous permettaient de rentrer en contact avec des enfants en Thaïlande. Mais il faut dire qu'en 1997, on était au balbutiement d'Internet. Et même moi, ça me paraissait absolument incongru ce qu'on me racontait. Et quand je suis revenue, alors toujours, il n'y a pas de hasard dans la vie. Un an après, il y a eu à l'UNESCO John Mayer qui s'en allait et qui voulait faire vraiment quelque chose concernant Internet. Et avant de partir, voulait prouver par plusieurs conférences ce que allait être Internet et ce qui se passait sur Internet.
Parce qu'évidemment, à l'époque, tu le dis très justement, aujourd'hui, ça fait partie de notre vie. Mais à cette époque-là, donc on est en 97, 98, on sait à peine ce que c'est.
On ne savait pas ce que c'était. Et effectivement, à l'UNESCO, ça a été très clair, on nous a montré des horreurs. Bon, il y avait des sommités du monde entier, les polices, le monde informatique, des psychiatres, des écrivains, qui ont un petit peu montré des images terribles. Puisqu'à l'époque, on ne parlait que de la sexualité, hein, la pédophilie sur Internet et la pornographie. Et évidemment, au vu de ces images, j'ai dit bon, c'est bon. Ça y est, je vais me lancer dans la bataille et j'ai toujours cet adage en moi, c'est qu'on ne va jamais aussi loin quand on ne sait pas où on va, parce que vraiment je savais pas où j'allais. Et voilà, et c'est comme ça que l'affaire a commencé et j'ai enrôlé autour de moi des amis qui sont et on a formé une association avec tout ce que ça comporte, présidente, vice-présidente, trésorier, etc. Parce que je voulais des choses extrêmement établies, mais j'avais conscience aussi qu'au début je ne pouvais faire que du lobbying. Parce que qu'est-ce qu'on allait faire, puisque c'était juste au début de la pédophilie sur Internet et de la pornographie.
Alors si tu veux bien, on va en parler tout à l'heure. En attendant, on va écouter tes choix en musique.
À la chaleur humaine, à la chaleur humaine, à la chaleur humaine.
Radio Cité Genève. Viviane De Witt, la bouteille à moitié pleine.
Vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2 dans la bouteille à moitié pleine avec Valérie Wertheimer, qui est la fondatrice et la présidente d'Action Innocence. Alors nous venons de voir comment Action Innocence est née de façon tout à fait fortuite après un voyage en Thaïlande où tu as découvert le tourisme sexuel et où tout à coup tu as découvert aussi ce qu'était Internet qui n'en était qu'à ses balbutiements.
Absolument.
Alors comment as-tu décidé d'organiser tout ça ? Parce qu'au début, tu avais quelques amis, tu l'as dit tout à l'heure, tu as tout de suite créé un conseil d'administration, donc ça c'était professionnel. Et puis ensuite, pourquoi faire ?
Alors justement, on s'est posé la question, parce que lorsqu'il y avait eu ces conférences à l'UNESCO, on avait quand même les uns et les autres bien pensé qu'il y aurait une suite qui serait autre chose que celle-là. Donc on a tout de suite pensé aux enfants, et surtout, j'avais des enseignants à mes côtés, j'avais des psychiatres, et ils ont tout de suite dit, il y aura un problème avec les enfants quand ils vont pouvoir aller sur Internet. Mais il y a quand même eu 5 ans avant qu'on mette tout ça sur pied, parce qu'au début, on m'a pris, moi et mes congénères, un petit peu pour des illuminés. Qu'est-ce que ces gens-là nous racontent ? Et puis, au fil du temps...
Mais à qui en parlais-tu à l'époque ?
Ben, au gouvernement. J'essayais. Bon.
Pas beaucoup d'écoute.
Pas beaucoup d'écoute. Aux gens qui allaient pouvoir m'aider financièrement à monter tout ça. Et puis, comme je n'avais que de possibilités que de montrer ce qui existait, j'ai décidé, tout de suite après la création, un an après, de faire une très grande soirée et de montrer l'horreur. Et c'était une grande décision parce qu'on n'avait pas le droit de montrer l'horreur. Et je pense que là, on l'a bien fait. J'ai pris des risques parce que, enfin, pas seulement moi, nous, le conseil d'administration, parce que comme il était interdit de montrer ce genre de choses, c'était pénalement punissable. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qui va m'arriver ? Et tant pis, on y va. C'est dans mon caractère, on y allait.
Tu te voyais déjà à Chandelon.
Presque, mais j'aurais eu des visiteurs et des visiteuses voilà, et des exactement. Oranges, c'était pas le problème. Et on a donc montré une petite fille qui se faisait violer, parce que les images, on en voyait, nous, hein, puisqu'on commençait à travailler avec les polices. Une petite fille qui faisait violer, 4 ans, avec tout l'horreur que ça représentait. Et il y avait dans la salle 600 personnes. C'était la première soirée concernant la pédophilie. Et là, je crois qu'il y avait Michel Drucker qui était là. J'avais pris autour de moi des acteurs, des actrices, des gens qui pouvaient après véhiculer un message. Et je crois que là, les gens ont compris qu'il y avait quand même l'horreur qui était en train de s'installer et qui n'était toujours que la pédophilie et la pornographie. Et à partir de là, on a soulevé des fonds et on a commencé à mettre au point des modules éducationnels. Rien, déjà, parce qu'on savait qu'il y avait aussi des prédateurs. Ça commençait à venir dans les 5 premières années. C'est-à-dire des gens qui, au travers des chats, allaient commencer à interpeller les enfants à des sollicitations sexuelles.
Est-ce que c'est à cette époque que tu commences à expliquer aux parents qu'il ne faut pas laisser Internet dans la chambre des enfants ?
Alors, c'est un tout petit peu plus tard. C'est plutôt il y a 7 ou 8 ans où vraiment les choses ont commencé à démarrer. Il y a eu 5-6 ans qui étaient très difficiles parce qu'il fallait faire comprendre aux gens les choses. Bon, et puis après, je veux dire, Internet, c'était foudroyant. Je veux dire, on n'a pas attendu des années.
Ça a été viral.
Ça a été absolument viral. Et bon, et maintenant, force est de constater qu'on avait raison de commencer par ce problème. Mais malheureusement, il y a d'autres problèmes qui sont tout aussi importants à l'heure actuelle que la pédophilie et la pornographie.
Alors, on va en parler tout à l'heure. Mais ce qui est important maintenant de nous expliquer, c'est comment expliques-tu aux parents, parce que les parents nous écoutent, comment expliques-tu aux parents qu'il ne faut pas que leurs enfants, qui le réclament bien sûr, aient Internet dans leur chambre ?
Alors, c'est simple. Je pense qu'un parent ne laisserait pas son enfant de 10-11 ans seul dans la rue. Eh bien, il faut qu'il se dise qu'il est exactement dans le même cas de figure. On ne laisse pas un enfant dans sa chambre parce qu'il est capable, pendant que les parents, eux, sont installés dans leur salon, de voir des horreurs. Et de voir des horreurs, ce sont vraiment des horreurs, et d'avoir des sollicitations sexuelles par des prédateurs qui sont devenus des spécialistes sur Internet. Ça, il faut le savoir. Il faut savoir aussi que c'est des processus qui sont extrêmement longs. Un enfant peut chatter pendant 2-3 mois en pensant qu'il est en train de chatter avec quelqu'un de son âge. Il y a une espèce de séduction. On sait très bien que les enfants de 12-13 ans, ils ont envie de plaire, ou alors ils sont pas contents avec leurs parents, ils se plaignent. Enfin, il y a une écoute. Il y a une très bonne oreille. Les prédateurs sexuels savent très bien s'exprimer avec les enfants, savent très bien comment les accueillir dans leur giron. Et ça, les parents, d'abord, les parents n'ont pas à mettre à partir de... On considère qu'à partir de 15-16 ans, on peut avoir un Internet dans sa chambre. Autrement, ça doit être supervisé. Il n'y a pas d'Internet à 8 ou 9 ans dans la chambre d'un enfant.
Alors Valérie, j'ai tout de suite une question, puisqu'on a Internet sur son iPhone.
Absolument.
Et que tous les enfants aujourd'hui ont un iPhone.
Alors maintenant, justement, l'iPhone, ils l'ont depuis 4 ou 5 ans. Donc il y a une nouvelle problématique. C'est que les parents doivent accompagner leurs enfants sur ce qu'ils voient. C'est pour ça que nous, dans notre prévention auprès des parents, on insiste sur le fait qu'ils ne peuvent pas tout contrôler, ils ne peuvent pas tout interdire, mais ils doivent accompagner et être suffisamment au fait de ce que font leurs enfants sur Internet.
Au fond, Valérie, ton travail, c'est d'abord d'éduquer les parents.
Éduquer les parents, éduquer les enfants, éduquer tous les gens qui ont envie d'être éduqués, qui ont envie d'écouter. Et ils sont nombreux, hein, ça c'est pas le problème. Mais ils sont souvent débordés, enfin les familles à l'heure actuelle sont souvent débordées, les mamans travaillent, etc. Mais on ne le dira jamais assez. L'accompagnement. Regardez ce que vous faites avec vos enfants, faites des choses et puis surtout, mettez-les en confiance. Si un enfant se trouve confronté à des images de pornographie dure, et ça, elles sont légion sur Internet, un enfant peut très bien s'amuser et d'un seul coup tomber sur l'horreur. Alors, un enfant de 15-16 ans, il sera peut-être un petit peu plus au fait des choses, mais chez un enfant de 8-9 ans, ça peut être extrêmement perturbant.
Si tu veux bien, on écoute un peu de musique.
Mm-hmm.
Radio Cité Genève. Viviane De Witt.
La bouteille à moitié pleine.
Vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2 dans La bouteille à moitié pleine. Nous sommes en train de parler, d'écouter Valérie Wertheimer, la fondatrice et présidente d'Action Innocence, et de découvrir avec horreur à quel point nos enfants sont en danger par ces outils qui sont notre quotidien aujourd'hui, Internet avec l'iPad, avec l'iPhone, avec bien entendu l'ordinateur. Donc comment prévenir tout ça, Valérie ?
Alors, malheureusement, je pense que tant qu'il n'y aura pas une volonté gouvernementale mondiale, les choses ne pourront pas avancer plus. Nous, on a considéré que la prévention, c'était la chose la plus simple pour atteindre les parents, les enfants et effectivement aussi les gouvernements. Mais je pense que ils ont tout à fait maintenant, depuis 5 ou 6 ans, pris
quand
la gravité.
Quand tu dis ils, les gouvernements.
Les gouvernements, oui. Ils ont pris en considération la gravité des faits, mais je crois qu'ils sont un petit peu dépassés.
Bien, au fond, là aussi, c'est viral, c'est-à-dire que les moyens techniques avancent à toute vitesse. Les enfants et les parents sont au fond très séduits par ces moyens de.
Alors, on ne peut pas tout interdire dans la vie. Bon.
Et plus on interdit, on le voit avec la drogue, et plus ça fleurit.
Donc il faut expliquer, continuer à expliquer. Et moi, ce que j'espère pour l'avenir, ça a toujours été mon but, mais ça l'est de plus en plus, c'est que ça devienne, toutes ces préventions deviennent absolument obligatoires et fassent partie du cursus scolaire des enfants. Il n'y aura plus un enfant qui n'aura pas une prévention de 2 heures dans son cursus scolaire.
Alors ça, tu l'as obtenu à Genève, je crois, Valérie.
Alors, je l'ai obtenu d'une certaine façon à Genève et dans la Romandie.
Tu peux nous en dire un mot ?
Oui. Alors là, il n'y a pas de problème. On va à la demande des directeurs d'école, on va faire des préventions, donc des modules de l'âge de 8 ans, même jusqu'à 15, 16 ans. Avec, évidemment, on ne parle pas à un enfant de 8 ans comme on parle à celui de 9 ans, 12 ans, 14, 15 ans.
Oui, ça, c'est très intéressant. Ne va pas trop vite là-dessus parce que c'est extrêmement important pour les parents. Parce que c'est vrai que c'est difficile aussi d'aborder ces sujets-là avec des enfants très jeunes. On ne sait pas comment le faire quand on n'est pas un professionnel, je dirais, de l'éducation ou de l'enseignement.
Alors, il y a quand même des choses que nous, les parents, nous avons la responsabilité d'aborder.
Tu pourrais nous en dire un mot ?
Oui, les problèmes de sexualité.
À quel âge, à ton avis ?
9 ans, 10 ans. Avant, pas à 7 ou 8 ans, bien entendu. Mais il n'est pas rare qu'un enfant de 9 ans se trouve confronté à des images choquantes, des images de pornographie dure. Et on sait aussi que les enfants de 10, 11 ans, surtout les garçons, sont très friands des films pornographiques. C'est un peu normal.
Bon, c'est la curiosité normale.
La curiosité normale. Et il ne faut absolument pas qu'ils confondent sexe et amour, et sexe et pornographie. Et à l'heure actuelle, ils font un amalgame total.
Mais on sait que même les grandes personnes font l'amalgame.
Le font. Mais pour les enfants de 11, 12 ans, c'est plus choquant. Donc je pense qu'il faut aborder des problèmes. Si par exemple, vous avez un ordinateur dans une pièce commune et qu'un enfant de 9 ans tombe sur une image un peu choquante, à partir du moment où il est entouré, il va peut-être dire « Oh là là, mon Dieu !» et les parents vont venir. Et alors, à ce moment-là, on dédramatise, on explique. On dit ce qu'il voit, bah, malheureusement, c'est pas la bonne partie d'un Internet, c'est pas la vie réelle et on va vers
on
une conversation.
On a l'occasion de redresser les choses.
Parce que si l'enfant est seul quelque part et qu'il se trouve confronté à ça, il va se sentir sale, il va se sentir mal, il va pas en parler, il peut développer par rapport à ça des choses qui n'ont pas à être développées.
Il peut développer aussi une certaine curiosité morbide pour tout ça.
Absolument.
Et à ce moment-là, c'est le début de ce que tu décrivais tout à l'heure.
Absolument. Donc, je pense que là, le dialogue est toujours important et il va continuer à être important très longtemps.
Alors, Valérie, explique-nous quand même. Donc, Action Innocence, oui, dont on a vu tout à l'heure que tu l'as créée en 99 et que tu as mis tout de suite, je dirais, des structures professionnelles, donc a obtenu un certain nombre de reconnaissances. Il faut que tu en parles.
Alors, la reconnaissance, la première reconnaissance, c'est que j'ai reçu la Légion d'honneur en France il y a 3 ans pour le bon travail effectué. Alors, je dis toujours que je suis le phare de cette association, mais que j'ai autour de moi, j'ai une 20aine de personnes qui sont des gens formidables, des psychologues, des éducateurs sociaux, des ingénieurs informaticiens qui ont développé un logiciel de traque qu'on a remis à plusieurs polices en Europe.
On va en parler de cette action avec la police.
Voilà. Donc, une reconnaissance. Nous sommes reconnus d'utilité publique en Suisse. On est quand même sollicités. On commence à avoir des partenariats très importants avec les différents cantons. Et on couvre évidemment toute la Romandie, tout Genève et certains cantons. On a des conventions qui nous permettent d'aller dans les écoles. Et ça, c'était une belle reconnaissance.
Alors, je crois qu'à l'étranger, tu as obtenu aussi de l'écoute au Canada, à Monaco.
Alors, au Canada, surtout pour tout ce qui est logiciel de track. Alors, nous étions établis en France pendant 10 ans. J'ai cessé d'aller en France pour des raisons qui seraient pas très sympathique expliqué pour la France.
Mais je crois que ce sont des choses que tu peux dire parce que
étant qui j'étais et que j'ai demandé une fois ou deux des subsides parce que bon, c'est bien gentil de toujours nous mettre la main à la poche et on m'a répondu que mon statut social me permettait de faire ce que j'avais
à faire.
De faire
face à tout. Oui. Bon, les gens ne se rendent pas compte.
Non, alors C'était pas grave en soi. On a fait un travail merveilleux pendant 10 ans. Il y a eu plein d'enfants qui ont été. Mais j'ai considéré que pour moi et mon équipe, c'était pas sympathique de réagir comme ça. Donc je suis partie de la France.
Est-ce que tu veux dire que le gouvernement français t'a refusé l'écoute? Parce que c'est important.
Alors,
ça.
Refuser l'écoute, je ne dirais pas, parce qu'ils m'ont écoutée. J'ai été reçue dans plusieurs cabinets. Il n'y a pas eu de problème à ce niveau-là. On a pallié pendant des années à un manque de leur part. Bon, c'était pas leur priorité, les enfants. Je ne crois pas. Il y avait d'autres priorités.
Oui, en particulier, je pense, la cybercriminalité financière.
Ça
les intéresse beaucoup plus parce qu'il y a de l'argent à récupérer.
Absolument, mais il y a toujours une histoire de gros sous. C'est comme, je dis qu'on devrait aussi interdire tout ce qui est pornographie, mais on me répond que derrière ça, il y a tellement d'argent qui circule. Alors, je veux bien, mais...
Oui, mais à ce compte-là, la drogue aussi. Alors,
Mais moi, la pornographie, ça me touche beaucoup parce que ça peut quand même déglinguer des enfants.
Complètement,
beaucoup.
Complètement.
Voilà.
On écoute encore un peu de musique. Est-ce que tu nous as choisi toujours?
One who loves life never grows old. Living for today, she leads the way. One who knows pain has to grow strong. And I know either way, whatever life brings, I have got a song to set me free. That's how I want to be. Sometimes things just fall apart. Time is standing still. I'm turning round and round again, looking for the truth. Maybe I'm blind, trying to see, searching for the strength inside of. Just waiting to fly, riding on a tune from days gone by. But I know either way, whenever I'm down, I've got a song to set me free.
Radio Cité Genève.
That's how
Viviane De Witt,
la bouteille à moitié pleine.
Vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2 dans la bouteille à moitié pleine avec, vous l'avez découvert, une belle personne, Valérie Wertheimer, fondatrice et présidente d'Action Innocence. Valérie, en t'écoutant, je découvre l'ampleur de ce que tu as monté. Au début, mon Dieu, c'était une ONG, c'était une association, c'était plein de bonne volonté. J'ai été admirative de ce côté professionnel avec lequel tu as structuré tout l'ensemble. Mais aujourd'hui, ça a pris vraiment des proportions et grâce à Dieu, parce que ça sauve beaucoup d'enfants de catastrophes. Alors explique-nous la forme que ça a aujourd'hui et l'ampleur que ça a pris.
Alors, la forme que ça a, c'est régi comme une association, donc président, vice-présidente, etc., trésorier, avec une structure qui est extrêmement bien établie et une vingtaine de personnes travaillant chez nous, donc des psychologues, ingénieurs informaticiens, une troupe de théâtre pour diffuser des messages aux parents, parce que c'est par le théâtre avec les parents qu'on fait passer les messages.
Alors explique-nous ça, parce que c'est difficile au fond de le faire de but en blanc, ça serait ennuyeux ou ça n'atteindrait pas la cible?
Si, ça pourrait, mais on a essayé, ça a tellement bien marché qu'on a continué.
D'accord.
Et même pour faire passer des messages auprès des plus vieux, des 16-17 ans, ils aiment beaucoup parce que c'est très très ludique.
Et puis
c'est interactif. Nous avons donc une assemblée générale tous les ans avec les adhérents, et puis on fait un rapport annuel qu'on distribue distribue à tous nos donateurs, enfin à tous ceux qui nous aident, avec une transparence totale, puisque nous sommes audités par Deloitte & Touch, et ça j'y tenais absolument.
Alors pour les auditeurs qui ne savent pas, c'est l'un des grands audits du monde, enfin c'est l'une des grandes sociétés d'audit du monde, donc c'est extrêmement sérieux. Est-ce que tu peux nous dire combien tu as d'adhérents à l'époque,
en ce moment? J'ai eu beaucoup d'adhérents au début, et j'en ai un petit peu moins, à peu près 250.
Alors, je pense qu'il faut que tu fasses un appel et que tu te serves de cette émission.
Mais oui, parce que pour moi, c'est important. Si j'ai fait cette action sous forme d'association, c'est justement pour avoir des adhérents. Je ne voulais pas de fondation, je voulais une association pour mettre le plus grand nombre de gens autour de nous. Alors, j'ai besoin d'adhérents. Alors, l'adhésion, c'est quoi? C'est 80 francs suisses par an, mais ça nous aide. D'abord, ça donne un petit peu de légitimité encore plus solide. Et puis, d'être entouré, de savoir qu'il y a des gens qui adhèrent à cette cause, moralement, c'est extrêmement
alors,
bénéfique.
Comment est-ce qu'on fait, Valérie? Est-ce que tu veux donner un site ou est-ce
que tu
veux donner
www.actioninnocence.org. Donc, toutes les adhésions seront les bienvenues. Il y a des gens qui nous disent des fois, oui, mais c'est un petit don. Il n'y a pas de petit don. Il n'y a jamais de petit don. Pour nous, c'est important d'avoir des adhérents. Donc, merci de m'avoir donné l'opportunité.
Mais c'est tout à fait normal parce que tu fais vraiment quelque chose de très important et Action Innocence, c'est essentiel. Donc, on va revenir à tous les dangers que courent les enfants. On les a évoqués tout à l'heure. On ne les a peut-être pas évoqués assez avec l'iPhone que beaucoup d'enfants possèdent aujourd'hui. Et là, c'est la porte ouverte sur Internet.
Alors, c'est la porte ouverte sur Internet. Bon, alors, on a parlé beaucoup de la pédophilie et de la pornographie. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, il y a des dangers sur Internet qui sont tout aussi conséquents. On va parler du cyberharcèlement. Le cyberharcèlement sur Internet a pris des formes de violence terribles. Le harcèlement a toujours existé. Dans les écoles, on avait toujours quelqu'un qu'on embêtait, mais une fois que ce quelqu'un rentrait chez lui, il avait la paix. À l'heure actuelle, une personne qui est harcelée peut l'être de multiples façons, par des mauvaises rumeurs, par des photos trafiquées qu'on envoie sur Internet. Donc, le cyberharcèlement, c'est une chose sur laquelle on est très très souvent confronté.
C'est une forme de violence nouvelle, au fond.
Violence nouvelle à cause d'Internet.
Alors, ce qui est très important aussi, c'est que je voudrais revenir quand même un moment à quelque chose qui est assez terrifiant pour les parents et qui... Tu parlais de cette mise en confiance de prédateurs sur Internet qui arrivent à parler à nos enfants, à se faire passer pour des jeunes et des copains, au fond, et puis qui tout d'un coup leur demandent de se déshabiller ou de faire des gestes sexuels.
Alors ça aussi, c'est... Alors, il y a aussi une nouvelle forme de sexualité sur Internet. C'est un désinhibiteur, l'Internet.
Et pourquoi donc?
Parce qu'il y a une espèce d'écran et dans la vie de tous les jours, vous avez un petit copain, si vous le connaissez depuis peu de temps, s'il vous demande de vous déshabiller, vous ne le ferez sûrement pas. Et ça, on le dit, on n'insistera jamais assez. Ce que vous ne feriez pas dans la vie réelle, vous ne devez pas le faire sur Internet. Maintenant, on assiste à des déshabillages et souvent, ces déshabillages servent justement après à faire du chantage. On a eu un garçon il y a une année en Suisse qui s'est suicidé. Il avait 17 ans. Il avait eu une sexualité, des séances masturbatoires avec une jeune femme qui, au bout d'un certain laps de temps, lui a dit « Maintenant, j'ai toutes les captures d'écran. Si tu ne me donnes pas telle somme d'argent, je vais faire circuler tout ça, etc. » Et le jeune homme s'est suicidé. Alors, ça n'arrive pas tous les jours. On ne va pas affoler les parents. Mais c'est des choses qui peuvent arriver. Et ça, il faut être bien, bien conscient du problème. On ne fait pas n'importe quoi sur Internet. C'est pour ça qu'il est important de ne pas envoyer ni de choses très personnelles, ni ses coordonnées, ni son téléphone, de faire très attention à son mot de passe. Enfin, des choses qui sont simples à respecter.
Alors, tout à l'heure, tu nous as dit, au fond, j'éduque les parents et les enfants, mais je pense vraiment que ce sont les parents qui font éduquer, parce que les parents ne sont pas conscients de tout ça.
Alors, certains parents, oui. On le voit, d'ailleurs, dans les associations de parents, lorsqu'on donne des conférences. Très bizarrement, on a pensé qu'on allait faire un carton avec les parents, et... Alors, il y a des parents qui viennent, mais c'est pas autant qu'on aurait pu penser. Par exemple, je vous dis n'importe quoi, si on convoque 100 parents, sur les 100 parents, il y a peut-être une cinquantaine qui vont venir.
Mais est-ce que ce n'est pas la preuve qu'ils ne sont pas conscients du dommage qui peut être causé à leurs enfants?
Et pourtant, c'est quand même une chose dont on parle très souvent. Il n'y a pas une semaine où on ne relate pas un fait. Je pense qu'il n'y a pas assez d'émissions de télévision faites sur le sujet.
Il n'y a pas beaucoup d'émissions de télévision faites sur le sujet. Les émissions, en général, parlent... Il y en avait une cette nuit. C'était sur la cybercriminalité, mais c'était beaucoup sur la drogue.
Ah oui, oui.
Beaucoup plus que sur cet aspect de prédateur sexuel vis-à-vis des enfants. Donc, en fait, le côté effarant de cette cybercriminalité qui, au fond, maintenant, il y a des sites, enfin, il y a des moyens d'effacer même ces traces vis-à-vis de la police.
Oui, ils sont, comme je disais tout à l'heure, tous les prédateurs sexuels sont des gens extrêmement futés en matière d'Internet, très, très futés. Mais, alors, justement, il y a quand même la police qui joue un rôle. Nous avons un partenariat avec le SCOCI, où on a mis...
Expliquer pour nos auditeurs ce qu'est le SCOCI.
Alors, le SCOCI, c'est le département de la criminalité, et on a développé, nous, un logiciel de traque en 2003 qu'on a mis à la disposition du SCOCI. Donc c'est un logiciel qui permet rapidement de débusquer les gens qui téléchargent de la pédopornographie. Et grâce à ce logiciel, ils débusquent tous les mois un certain nombre de cas, mais ils ne sont pas assez nombreux.
C'est la goutte d'eau dans la mer, un peu.
C'est pas grave. Moi, je dis que lorsqu'on peut sauver un enfant, c'est déjà ça.
Tu as raison.
Et grâce à cette cellule, il y a déjà eu des enfants qui ont été sauvés. Parce que très souvent, on s'aperçoit quand les gens téléchargent et qu'on arrive à aller chez eux sur leur disque dur, c'est même souvent leurs propres enfants. Donc, on a sauvé une ou deux fois des enfants qui avaient été remarqués par ce biais-là.
Valérie, ça se passait en Suisse ?
Oui. Alors, je voudrais quand même signaler aussi une chose, parce que il n'y a pas un pays qui est exempt de ça. Ça n'existe pas. Par exemple,
Monaco ?
Même à Monaco. Alors ça, j'ai eu à Monaco. Alors chez nous, on n'a pas. Bon, c'est comme, on ne sait, je veux dire, le prédateur sexuel, il n'y a pas un profil du prédateur sexuel. Ça peut être le boulanger, ça peut être un médecin, ça peut être monsieur tout le monde. Donc, il n'y a pas.
On va prendre un peu notre souffle là, parce que c'est tellement terrible de penser à tout ça. Écoutons un peu de musique.
Ne me quitte pas, il faut oublier tout, peut s'oublier qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de. Pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et qu'on vient le soir pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
Radio Cité Genève. Viviane De Witt, la bouteille à moitié pleine.
Vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2 dans la bouteille à moitié pleine avec Valérie Wertheimer, fondatrice et présidente d'Action Innocence. Action Innocence qui a pour but d'empêcher les enfants de surfer sur Internet et de se retrouver en danger sans que les parents puissent même imaginer l'ombre de ce qui peut arriver. Alors Valérie, explique-moi comment tu t'adresses aux enfants. Tu as dit tout à l'heure que tu t'adressais aux parents. Maintenant, je voudrais savoir comment tu t'adresses aux enfants suivant les âges.
Alors, nous avons des psychologues ou des travailleurs sociaux, des éducateurs, donc des gens qui sont formés et des modules qui vont de l'âge de 8 ans à 16 ans et du matériel pédagogique. Alors, on utilise par exemple avec certains enfants des BD. Avec les plus petits, on leur parle pas vraiment des grands dangers. On leur dit simplement que sur Internet, il faut faire attention, etc. On n'a pas le même langage.
Parce qu'on leur dit qu'il y a des méchants, tout simplement.
Voilà, absolument. Voilà. Donc, il y a des BD qui vont dans ce sens-là, avec des images extrêmement ludiques. Et c'est à partir de ces planches de contact qu'on établit un dialogue.
Alors ça, c'est à travers les écoles.
Dans les écoles, absolument.
Les écoles.
Mais ça, c'est un matériel qui a été complètement conçu et agréé par Action Innocence. Et je le disais tout à l'heure, pour les plus grands, des messages qui passe par le théâtre, c'est toujours extrêmement interactif. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui est en face d'un enfant et qui parle. D'abord, on interroge beaucoup les enfants. On arrive en leur disant, voilà, surtout pour les nouvelles classes, quelles sont les choses intéressantes que vous avez vues sur Internet ces derniers temps? Quelles sont les choses qui vous ont choquées? Et à partir de ce que la classe a pu expliquer, ben, ça débouche sur différents modules qu'on a. On adapte un petit peu le discours par rapport aux envies, aux problèmes ou aux non-problèmes. Parce qu'il arrive aussi qu'il n'y a pas que des problèmes sur Internet. Il y a quand même aussi des belles choses.
Bien sûr.
On ne veut pas diaboliser, hein,
non,
j'insiste.
Bien sûr. Mais est-ce qu'un enfant au milieu d'une classe va avoir, donc au milieu de ses petits camarades, va avoir le courage de dire que quelque chose l'a choqué et de parler de ce qui l'a choqué?
Alors, c'est arrivé plusieurs fois, oui, absolument. Même des enfants qui ont dit, mais vous avez dit des choses, en 10 ans, c'est bien arrivé 3-4 fois. Vous avez dit des choses, et puis là, je me suis aperçue que mon grand frère me faisait ça, ou que mon papa, ou mon grand-père, ou voilà, oui. Donc ça peut déboucher. C'est pour ça qu'il est important d'avoir des gens qui ont les réponses adéquates et pas qui disent n'importe quoi. Et
mais nous, là, à ce moment-là, on débouche là sur des incestes, on débouche sur autre chose que la criminalité,
absolument,
la cybercriminalité.
Oui. Mais c'est vrai que les enfants parlent facilement de ce qu'ils voient, même ce qui les choque. J'ai en mémoire un jour un petit garçon qui nous disait, il avait 11 ans, c'était assez terrifiant, qui nous disait que la maîtresse lui avait demandé de faire une recherche sur les chevaux et qu'il n'avait pas compris parce qu'il était tombé sur une dame qui avait le zizi du cheval dans sa bouche et il a dit, mais je ne comprends pas qu'on fasse du mal aux animaux.
Mon Dieu, c'est assez effrayant.
Non mais c'est effrayant. Alors, des choses comme ça, ça arrive. Et puis, il faut savoir que le discours des enfants de 11-12 ans n'est pas le même discours des enfants de 11-12 ans il y a 20 ans. Ils sont très au fait des choses. La plupart du temps, c'est très souvent eux qui vous racontent ce qu'ils ont vu sur certaines applications, alors que vous n'êtes même pas encore au courant.
Ils sont... Bon, cette sincérité, cette capacité à s'exprimer qui est nouvelle, parce que les enfants étaient timides autrefois.
Ah non, là, ils sont
nous
pas.
Avons été des enfants timides,
très,
même si nous
très,
sommes moins timides
très,
aujourd'hui, Valérie.
Très, non, non.
Donc, je ne sais pas si nous aurions été capables, si
non.
Nous avions été heurtés par ce genre d'image, nous n'en aurions pas parlé, je pense, ou pas de la même façon.
On a d'abord, aux parents,
forcément, c'est ça
non,
aussi.
Non, mais là, justement, on explique beaucoup aux enfants dans nos interventions qu'il faut qu'ils parlent aux parents, que si des choses les ennuient, il faut en parler. Et on explique de la même façon aux parents, vous devez répondre aux questions de vos enfants.
Important ça, importantissime. Mmh. Mais alors, donc, en dehors des écoles, est-ce que tu as des moyens
Alors oui, des grandes campagnes. Voilà. Tous les 2 ans, nous faisons des grandes campagnes. La première grande campagne, c'était contre les mauvaises rencontres. Donc, c'était le titre, c'était...
Alors, la campagne prend quelle forme?
Alors, la campagne, c'est Havas qui nous fait toutes nos campagnes.
Donc, des affichages.
Des affichages, des spots de télévision et souvent des distributions de petites cartes dans les écoles pour montrer les dangers. Donc, on a eu 3 grandes campagnes. Donc, la mauvaise rencontre, tout ce qui se passe dans la chambre d'un enfant pendant que, justement, les parents... et puis, la dernière campagne, c'était « Ne laisse pas échapper ton image ». Ça, c'était pour les 16-25 ans qui, à force de prendre des selfies, des choses dans des situations où même ils sont
ils
en train...
Ils ont bu, quelquefois.
Ils ont bu, ou même parfois, ils se prennent des photos en train de faire des bisous, mais un peu bon, etc. Et que très souvent, on arrive à retrouver ces images.
Hein, parce on arrive que... à retrouver ces images et au moment de, je dirais qu'au moment où il y a une petite enquête sur leur personnalité, ça peut les empêcher de trouver un métier
ou
enfin, un
job. Les CEO nous disent que très très souvent à l'heure actuelle, ils font appel justement à des recherches comme ça. Et bon, alors effectivement, quand on a 1500 heures, on se rend pas tout à fait compte. Alors ça, on insiste énormément auprès des jeunes en leur disant ne faites pas n'importe quoi.
Préservez votre image.
Préservez votre image, ne la laissez pas s'échapper. Et en plus de ça, il faut savoir que c'est rien ne se perd sur Internet. Le droit à l'oubli sur Internet, il n'existe pas.
Oui, c'est d'ailleurs quelque chose d'assez terrifiant parce que lorsqu'on est l'objet, et ça m'est arrivé, ça s'est sûrement arrivé, de commentaires pas très bienveillants à propos de multiples choses qui peuvent arriver dans la vie ou de multiples rencontres, on se retrouve à promener ça pendant des années.
Des années.
Et 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans après. Alors, tu as un mélange de belles notations et puis de choses qui ne correspondent plus à rien, qui ont pu être un moment, un passage.
Non.
Ça, c'est terrifiant aussi. Ça arrive pour tout le monde, pas simplement pour les jeunes.
Alors, on parle aussi aux jeunes des arnaques. Il y a énormément d'arnaques sur Internet. Par exemple, des gens qui vous disent, et moi, ça, c'est arrivé avec mon fils, il y a 2 ans, où j'ai reçu un email à 6h du matin de la part de mon fils qui me disait, « Maman, je suis bloquée, je ne sais pas où, etc. Est-ce que tu peux m'envoyer 5000 euros ?» Et ça avait été aussi envoyé à des amis à lui. Et comme tous ces jeunes, ils ont 10 000 amis sur Internet qui ne sont pas des amis. Enfin, voilà, bref.
Alors ça, c'est très important ce que tu dis, Valérie, parce que ça m'est arrivé, j'en ai été la victime. C'était le portable enfin, d'une de mes amies qui est infirmière à l'hôpital cantonal et qui est aux urgences et qui m'annonçait qu'elle était coincée en Afrique dans un endroit où, il allait lui arriver 1000 malheurs. Et effectivement, j'ai envoyé l'argent sans essayer de la toucher. Alors, n'essayez pas d'appeler, ça aurait dû m'alerter, mais je fais toujours les choses un peu trop vite. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis fait avoir, donc j'ai perdu la somme. Mais surtout, lorsque j'ai téléphoné à cette amie, elle m'a dit, mais je ne savais pas comment prévenir tous les gens qui étaient susceptibles d'être alertés et d'envoyer à tort.
Alors ça,
il faut le dire aussi pour nos auditeurs.
Ah, mais ça, mais
quand
on le dit, et j'insiste bien.
Quand vous obtenez une demande de subside,
Ne répondez pas. Non. Alors, des arnaques comme ça, elles sont légion, elles viennent très souvent d'Afrique. Hein.
C'est vrai.
Alors, il y a aussi les mauvais achats pour les enfants, hein, qui achètent des choses qu'ils ne reçoivent jamais. Enfin, il y a plein de choses. On peut acheter des drogues aussi grâce à Internet, en toute légalité. Donc, il y a beaucoup de petites choses. Mais par ailleurs, c'est vrai qu'il y a des choses merveilleuses sur Internet.
C'est vrai, on va écouter un peu de musique, Valérie.
Oh oui.
Se remettre de tout ça.
M'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, et regarder les gens tant qu'il y en a. Te parler du bon temps, qui est mort ou qui reviendra, en serrant dans ma main tes petits doigts. Lui donner à bouffer à des pigeons idiots, leur filer des coups de pied pour de faux. Et entendre ton rire qui les arde les murs, qui sait surtout guérir mes blessures. Te raconter un peu comment j'étais minot, les bons becs fabuleux qu'on piquait chez le marchand, car en sac et minto, caramel à 1 franc et les Mistral gagnants. À marcher sous la pluie, 5 minutes avec toi, et regarder la vie tant qu'il y en a. Te raconter la terre en te bouffant des yeux, te parler de ta mère un petit peu. Et sauter dans les flaques pour la faire râler, bousiller nos godasses et se marrer. Et entendre ton rire comme on entend la mer s'arrêter, repartir en arrière. Te raconter surtout les carambars d'antan et les cocoboères. Et les vrais roux-doudous qui nous coupaient les lèvres et nous niquaient les dents. Et les Mistral gagnants.
Radio Cité Genève. Viviane De Witt.
La bouteille à moitié pleine.
Vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2 dans La bouteille à moitié pleine avec Valérie Wertheimer, fondatrice et présidente d'Action Innocence. Action Innocence qui vise à éviter les dangers que nos enfants risquent de rencontrer sur Internet, en surfant sur Internet, ce qui est aujourd'hui le quotidien de chacun. Alors, Valérie, explique-nous les règles de base à dire aux parents. Il y a certainement beaucoup de parents auditeurs aujourd'hui qui t'écoutent et c'est très important qu'ils les connaissent.
Alors, la première règle de base que je pourrais leur dire, c'est de ne pas considérer Internet ou les écrans comme la babysitter du 21e siècle. Ça, pour moi, c'est très important. La deuxième règle, ça serait d'encadrer ses enfants mais de pas interdire. Donc, le dialogue, ça, c'est la chose pour moi capitale. Il y a une règle aussi qui est très importante, c'est ce qu'on appelle, nous, les 3-6-9-12, c'est-à-dire pas d'écran avant 3 ans, pas de console avant 6 ans, à 9 ans, Internet avec des parents, et à 12 ans, on peut commencer à avoir une petite indépendance, mais toujours supervisée par les parents. Donc, c'est pour nous, c'est la règle des 3, 6, 9, 12. Ça, c'est très important. Il faut aussi fixer les temps d'écran. C'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser un enfant des heures et des heures sur Internet. Parce que d'abord, il risque de devenir addict. Ça le désociabilise de tout l'extérieur. Ça ne lui permet pas...
Il vit en virtuel,
de là. Absolument. Les parents ont tendance à vouloir trop faire de choses à leurs enfants. Je pense que nous, on savait s'ennuyer et que notre ennui nous permettait
d'être créatif,
de faire travailler notre imaginaire. Et j'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, dès qu'un enfant a quitté un écran, hop, on va lui faire faire une leçon de piano, hop, on va lui faire faire... Je veux dire, un enfant n'a pas besoin d'être occupé.
Est-ce que les parents sont pas, par définition aujourd'hui, se sentent pas culpabilisés de ne jamais faire assez bien ?
Ah ben sûrement.
Et
sûrement,
du coup, le mieux étant l'ennemi du bien, comme chacun sait.
Mais c'est notre société qui crée tout ça quand même. Hein. Alors, autre chose aussi, c'est de voir avec qui les enfants chattent. C'est très important. Parce qu'on peut avoir un œil, se dire, tiens, c'est bizarre, là, tu es en train de chatter avec quelqu'un qui me paraît bizarre dans sa façon de te parler, tes réponses. Faire très attention aux données privées sur le web. Pas de confidentialité. Pas de photos équivoques. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, il y a énormément de photos, même anodines, qui sont trafiquées. C'est-à-dire que vous pouvez vous retrouver nu avec votre tête alors que vous n'avez jamais... Alors ça, c'est extrêmement important. Avoir une discussion extrêmement ouverte parce qu'il existe des filtrages qui ne vaudront jamais le dialogue. Et puis, faire aussi, pour les jeux vidéo, faire très très attention aux normes. C'est-à-dire que si un jeu vidéo vous dit que c'est pour 12 ans, ne collez pas ce jeu vidéo de 12 ans pour un enfant de 8 ou 9 ans, qui n'a rien à faire dans les mains d'un enfant de 8 ou 9 ans.
Les jeux vidéo sont quand même d'une rare violence aujourd'hui.
Très violent. Très très violent. Alors, justement, avant d'acheter des jeux vidéo, moi je pense qu'il serait bien que les parents se renseignent, mais de façon extrêmement sérieuse.
Les visionnent.
Ah ben, évidemment, les visionnent.
Ce qu'ils ne font jamais.
Jamais. Et savoir aussi que les jeux vidéo permettent de faire de mauvaises rencontres, parce que maintenant, ils sont très interactifs. Et on sait aussi que beaucoup d'enfants qui jouent sur les jeux vidéo, quand ils ont Internet dans leur chambre, jouent très tard dans la nuit, avec les gens du monde entier. Et très souvent, on a eu des réflexions sur les professeurs qui disaient que des enfants de 13 ou 14 ans
n'étaient épuisés le lendemain.
Épuisés le lendemain et ne pouvaient pas suivre les cours. Et puis surtout aussi, je dirais que nos enfants ont besoin de modèles de compétences. C'est-à-dire que ils savent par eux-mêmes, ils sont nés avec la technologie. Hein, je veux dire, ils l'ont. Vous voyez bien un enfant de 3 ans, vous lui mettez un mobile dans les mains, il s'est senti.
Ils sont plus brillants que nous là-dessus.
Voilà. Mais s'adresser aux gens de compétence, ça peut être les parents qui leur montrent. Et puis que les parents regardent aussi l'historique de leurs enfants, ce qu'ils font. Je parle des jeunes.
On peut regarder d'ailleurs l'historique de tous les sites qui ont été regardés
absolument,
dans un ordinateur. Donc
absolument.
Ça, c'est quand même à portée des parents.
Ça, c'est très facile à faire. Oui. Et ça enseigne bien sur ce qu'a fait votre enfant dans la journée. Quand
est-ce qu'il a regardé
pas... Absolument.
Ou la nuit.
Oui. Alors, voilà un petit peu les règles d'or. Et surtout, ne jamais, jamais accepter à l'extérieur un rendez-vous si on ne connaît pas la personne.
Oui, alors ça, c'est ce que les parents répètent quand même de façon assez habituelle. C'était du...
Oui, mais là, il faut continuer à insister, parce que quand on en parle avec les jeunes, très souvent, les jeunes filles, par exemple, disent « Mais non, je le connais depuis longtemps, ça fait 6 mois qu'on te chatte, etc. » Oui, mais bon, les profils, on sait très bien que les profils peuvent être...
Des profils de prédateurs.
Absolument. Donc, faire très attention à tout ça.
Alors, Valérie, un dernier mot avant de nous quitter, parce que tu nous as décrit un monde qui est assez terrifiant. Tu le dis très justement aussi, on ne diabolisera pas Internet, parce que par ailleurs, c'est l'accès à tellement de connaissances, tellement de sciences partagées, tellement de belles choses aussi. Mais alors, tu nous as expliqué comment éduquer les parents, mais ça paraît tellement, je dirais, impossible, parce que il y a tellement de possibilités de fuite, tellement. Tu as pas un peu les bras qui tombent devant tant à faire?
Écoute-moi, en 10 ans, j'ai un peu honte à dire j'ai, parce que disons que notre Action Innocence a catéchisé plus de 150 000 personnes. D'accord? Là, on a atteint des chiffres en 2013, on a eu à peu près 35 000 personnes, c'est-à-dire parents et enfants confondus. Et on va aller sûrement en 2014 beaucoup plus loin, parce que on a des demandes tellement importantes qu'on est encore obligé d'embaucher un ou deux psychologues. Donc, voilà. Et moi, je dis que tous ces gens qui auront été, entre guillemets, catéchisés par nous, bah, c'est des gens qui seront peut-être sauvés.
Alors, pour toi, c'est au fond un enfant, ça vaut la peine?
Ah bah.
Même
bien
si
sûr.
Tu n'avais sauvé qu'un enfant,
oui,
au fil de toutes ces années,
oui,
tu ne regrettes,
oui,
rien.
Ah non, rien du tout.
Je recommence demain. Tu recommences demain. Je voudrais terminer sur une très belle phrase que tu as dite à un moment et qu'on trouve dans tes dossiers. Les enfants sont l'avenir de l'humanité, notre devoir est de les protéger.
Absolument.
Toute ton action vise à ça, Valérie.
Merci.
Merci à toi. Merci d'être venu expliquer donc Action Innocence au micro de Radio Cité Genève. Je te remercie beaucoup. Je te demanderai de revenir parce qu'on n'en parlera jamais assez d'Action Innocence.
Merci
infiniment. Merci
à toi. Merci aussi.
Merci à Jackie Elzesser et Alexandre Jean-Renaud qui nous aident à monter cette émission. À bientôt. Au revoir.